Et belle soirée à l'écoute d'Europe 1. Il est 22h. C'est l'heure du journal de Christophe Lamarre.
Une ambition et une ampleur historiques. 100 milliards, c'est près de 4 fois plus que le plan de relance qui avait été mis en œuvre pour faire face à la crise de 2008.
La promesse du Premier ministre, des effets concrets et perceptibles pour le plus grand nombre, Jean Castex présentait cet après-midi le plan de relance économique du gouvernement. 100 milliards, pourquoi faire ? La transition écologique tire son épingle du jeu avec 30 milliards. 35 autres milliards seront consacrés à la compétitivité des entreprises et à l'innovation. Explication dans quelques instants. Dans ce journal, une centaine d'infectiologues portent plainte contre le professeur Raoult. Son tort ? Avoir fait la promotion d'un traitement qui n'a pas fait la preuve de son efficacité. Le Tour de France, on guettait la revanche de Julien Alaphilippe. On a eu un Kazakh arrivé détaché sur la ligne d'arrivée. Victoire d'Alexei Lutsenko, Adam Yates reste en jaune. La météo d'Anissa Haddadi, forte poussée du thermomètre demain, mais des nuages au nord. Et puis la Bourse de Paris termine en baisse, moins 0,44% à 5009 points. L'indice du CAC s'est retrouvé plombé par les mauvaises performances des valeurs technologiques à Wall Street. Les détails et les explications de Didier Hamot de Boursier.com. Free est de retour, c'est l'interview Echo à 22h20. Emmanuel Duteil reçoit le directeur général de l'opérateur. Et puis nous verrons à la fin de cette édition les principales unes de vos journaux demain.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Le gouvernement a donc dévoilé son plan de relance, 100 milliards d'euros, trois secteurs clés, la compétitivité des entreprises, la cohésion sociale et la transition écologique. On écoute le Premier ministre Jean Castex.
France Relance est d'abord un plan destiné à servir le climat et la biodiversité. Il consacre 30 milliards à cette transition, ce qui revient à plus que doubler, mesdames et messieurs, dans les deux prochaines années, les investissements que l'État consacre habituellement à l'environnement, alors même qu'ils étaient déjà en forte progression.
30 milliards iront à la transition écologique. Une partie financera la rénovation thermique des bâtiments. Près de 7 millions de Français se trouvent en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire que leurs factures d'eau, de gaz, d'électricité représentent plus de 8% de leurs revenus. Élise Dangean, qu'est-ce que cela va changer pour eux ?
Eh bien, à partir du 1er janvier prochain, tous les propriétaires pourront bénéficier de ma prime rénov, un dispositif pour le moment réservé aux foyers les plus modestes. Là, même les ménages les plus aisés pourront bénéficier d'un coup de pouce du gouvernement pour réaliser des travaux d'isolation, de chauffage ou de ventilation. Une aide qui pourra également être versée aux bailleurs et aux syndicats de copropriété, le tout avec des démarches administratives simplifiées. Le gouvernement vise ainsi les rénovations globales, rénover plusieurs appartements en même temps, par exemple, ou toute une maison, du sol au plafond. Une excellente stratégie, selon Pierre-André de Chalandard, PDG de Saint-Gobain.
Ça va être très significatif. En gros, c'est entre 300 et 400 euros par mètre carré pour rénover de façon globale. Mais si vous faites ça, donc ça va coûter cher. Hein, sur 100 mètres carrés, ça fait peut-être 30 000 euros. La prime rénove, elle pourra aller jusqu'à 20 000 euros. Donc ça veut dire que il va rester à charge pas grand-chose pour les plus modestes, un tiers, et une réduction de la facture de chauffage. Hein, mettons que c'était à peu près 3 000 euros. Mon logement moyen, ça va être 500 euros.
Alors pour ça, il faudra passer par des entreprises agréées, les fameuses RGE, reconnues garanties de l'environnement. Vos droits dépendront évidemment de vos revenus et du type de travaux réalisés. Il existe déjà un simulateur sur le site du gouvernement qui devrait être mis à jour d'ici au 1er janvier prochain.
Merci Élise Dangean. Le Premier ministre l'a rappelé plusieurs fois, l'autre objectif de ce plan de relance, c'est l'emploi. Et c'est là qu'intervient le volet compétitivité, 35 milliards d'investissements. Le gouvernement veut s'attaquer aux impôts trop lourds auxquels sont confrontées les entreprises. Sans contrepartie, taclent les adversaires de la majorité. Emmanuel Duteil, est-ce que les entreprises sont les grandes gagnantes de ce plan ?
On peut le dire, on peut l'assumer. Les entreprises sont les grandes gagnantes de ce plan. Et c'est totalement assumé du côté de l'exécutif. À Bercy, on dit avoir étudié tous les derniers plans de relance et assuré qu'ils ont été des échecs, notamment parce qu'ils se sont tous basés sur la demande. Stimuler la demande, ça veut dire généralement baisser les impôts, augmenter les aides aux ménages. Un ministre de premier plan le reconnaît. Alors ça, ça aurait été bien plus facile à vendre, mais ça aurait été, selon lui, inutile. Pour préparer la France de 2030, comme dit Jean Castex, l'exécutif veut donc faire ce que l'on appelle un choc d'offres. Et pour cela, le gouvernement baisse donc, oui, fortement certains impôts des entreprises. Un exemple, hein, les impôts de production, c'est un cinquième des 100 milliards du plan. Il y a aussi des milliards d'aides pour développer l'hydrogène, pour localiser des technologies d'avenir en France. Car pour Matignon, la seule politique qui marche, c'est celle qui crée de l'emploi. Alors oui, les entreprises vont aussi avoir une prime pour embaucher un jeune. jeune, un apprenti ne coûte quasiment plus rien aujourd'hui à l'employeur. Le gouvernement escompte 160 000 créations d'emplois en 2021, 240 000 en 2022, avec un objectif très ambitieux, repasser sous les 10% de chômeurs au début 2022, soit, tiens, comme par hasard, quelques mois avant la présidentielle.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. 7 milliards d'euros sont par ailleurs débloqués pour faire de la France un fleuron de l'hydrogène. Il faut maintenant convaincre nos partenaires européens. Ils financent près de la moitié de ce plan de relance sous forme de dons, soit 40 milliards d'euros. La France présentera sa copie. Le reste, c'est-à-dire 60 milliards, se fera sous forme de dette. Et ça dérange beaucoup le député Les Républicains et président de la commission des finances, Éric Woerth.
Moi, j'approuve l'idée que ce plan soit plutôt axé sur la compétitivité des entreprises, parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est de considérer que ce sera très très difficile de distribuer de la richesse et donc d'être plus juste si on ne la produit pas. Donc il faut les accompagner sur le plan de la relance. Mais la relance, elle ne suffit pas. Et la manière dont le gouvernement le présente, moi, me pose parfois question, même si je dis « ok, je suis favorable ». L'exemple précis, c'est le financement. Quand vous dites 100 milliards, qu'il y a 40 milliards à peu près financés par l'Europe, dont on n'est pas sûr. La décision n'est pas définitivement prise, et de loin pas, et la participation au remboursement de cet emprunt n'est pas non plus prise. Mais les vraies questions, elles sont vertigineuses. Oui. C'est-à-dire comment, à un moment donné, on finance ces montagnes de dettes qu'on est en train d'accumuler, sur le plan public comme sur le plan privé. Et c'est à ces questions, le gouvernement ne répond pas. Il dit le plan de relance finance le plan de relance. C'est-à-dire l'accélération de la croissance financera tout ça. Ce n'est pas vrai.
Éric Woerth, invité de Julien Bugier dans Europe un soir. Le deuxième jour du procès des attentats de janvier 2015, la justice s'est intéressée à l'identité des accusés ainsi qu'aux enquêtes de personnalité. La cour d'assises spéciale qui a exceptionnellement autorisé les accusés et leurs avocats à retirer leur masque lorsqu'ils doivent s'exprimer. L'autorisation des néonicotinoïdes dans les champs de betteraves risque bien de relancer la polémique. Ce pesticide est totalement interdit depuis 2018 en raison des ravages qu'il cause chez les abeilles. Et les producteurs de betteraves à sucre pourront donc y recourir de nouveau. Mais Virginie Salmen, ça ne semble pas aussi simple que ça.
Oui, les planteurs de betteraves à sucre mettent dans la balance les 46 000 emplois de la filière, les 21 usines sucrières du pays. Les agriculteurs vont hésiter à semer de la betterave, disent-ils, si les rendements baissent à cause de la jaunisse. C'est ce que met en avant Guillaume Gandon, qui cultive des betteraves dans l'Aisne.
La jaunisse a tout simplement pour effet de faire jaunir les feuilles. Soit la croissance s'arrête, soit même la betterave dépérit. Et ce qui peut conduire, moi, sur mon exploitation située dans l'Aisne, à des pertes d'autour de 20 à 30 %. Bon, à réévaluer dans 2 mois la fin de la récolte.
Les députés et associations écologistes estiment, eux, qu'il y avait d'autres solutions que de réautoriser, même temporairement, cet insecticide tueur d'abeilles. Pour le député Mathieu Orphelin, le gouvernement ouvre là la boîte de Pandore.
On craint qu'avec cette loi, l'État ouvre la boîte aux dérogations. Parce qu'il y aura des pressions, parce qu'il y aura des demandes, et il y en a déjà.
Les planteurs de maïs, notamment, réclament à leur tour une dérogation pour utiliser ces semences enrobées de l'insecticide, interdit en France depuis maintenant 2 ans.
À l'étranger, on hésite à parler de petits miracles à Beyrouth. Il faut rester très prudent. Une équipe de secouristes équipée d'un scanner a repéré un battement de cœur sous les décombres d'un quartier de la ville. La capitale libanaise a été en partie dévastée par la double explosion qui a ravagé le port il y a un mois. Depuis, les recherches pour retrouver les survivants n'ont pas cessé. La mort d'une figure d'Occupy Wall Street, l'anthropologue américain David Graeber est décédé dans un hôpital de Venise à l'âge de 59 ans. Ce militant altermondialiste avait joué les premiers rôles dans ce mouvement qui dénonçait les méfaits du capitalisme après la crise financière de 2008. L'affaire de l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine, le Kremlin ne voit aucune raison d'accuser l'État russe. Jugement hâtif, poursuit Moscou, qui se dit prêt à dialoguer avec Berlin. Insuffisant pour l'Union européenne, qui réclame une enquête et n'exclut pas des sanctions ce soir.
Europe 1, le 22-22-30.
Didier Raoult dans le collimateur de la justice. C'est l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône qui en est à l'origine. Le directeur de l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille est accusé de manquement au code de déontologie médicale. Il a recommandé l'hydroxychloroquine pour lutter contre le coronavirus, alors que plusieurs études ont démontré son inefficacité sur les patients atteints par le Covid-19. Mais dans l'entourage du professeur, on semble bien décidé à lancer la contre-attaque, Nathalie Chevance.
Oui, d'abord, il fait savoir qu'il n'est pas au courant de cette plainte et que depuis le mois de juillet, le Conseil de l'Ordre ne l'a toujours pas avisé. Ensuite, dans l'entourage du professeur Raoult, on tient à souligner que la Société de pathologie infectieuse, comme beaucoup de sociétés savantes d'ailleurs, est notamment financée par des laboratoires pharmaceutiques, Encore du buzz, dénonce le professeur Parola, chef de service à l'IHU.
Si tout cela est vrai, écoutez, on n'est pas du tout inquiet. Depuis le Moyen-Âge, les universitaires peuvent s'exprimer sur leurs pratiques, sur leurs travaux. Nous ne faisons pas de recommandations, ni Didier, ni moi, ni les membres de nos équipes. Nous avons simplement dit comment nous travaillons, comment nous soignons les gens. Et d'ailleurs, vous savez, la moitié du monde actuellement utilise l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine pour traiter les patients. Donc tout ce buzz médiatique, qu'il soit vrai ou faux, de toute façon, ne change rien dans notre façon de procéder et la confiance que placent les patients en nos équipes.
Et actuellement, une cinquantaine de malades sont soignés à l'IHU, mais le traitement du professeur Raoult ne fait pas l'unanimité dans les autres hôpitaux marseillais. Un chef de service me confiait aussi tout à l'heure que cette plainte était tout de même très malvenue dans le contexte actuel de reprise épidémique.
Nathalie Chevance, correspondante de permanente d'Europe 1 à Marseille. Le Grenelle des violences conjugales se tenait il y a tout juste un an et il reste encore beaucoup de chemin à faire. Ainsi, ce calvaire vécu par une habitante de Tourcoing dans le Nord, elle s'appelle Claire, elle a 35 ans. Son ex-conjoint n'a cessé de la harceler et il a fallu qu'elle se trouve en danger de mort pour que la police intervienne. Lionel Gougelot.
Oui, effectivement, ces 18 mois n'ont été qu'une succession de menaces, d'intimidations, parfois en pleine nuit au domicile de la jeune femme, des appels malveillants jusqu'à 60 par jour, des dégradations sur sa voiture, pare-brise défoncé, rétroviseur explosé, des menaces de mort très claires comme l'envoi de la photo d'un revolver, harcèlement qui s'est poursuivi jusque sur le lieu de travail de la commerciale en présence de clients. Alors au total, Claire a déposé effectivement une quinzaine de plaintes, mais sans effet, malgré un mandat d'arrêt lancé au mois de mars dernier, l'homme semblait insaisissable et c'est quand l'ex-conjointe tant il y a 15 jours de mettre le feu à son domicile en versant de l'essence sur sa porte d'entrée, que Claire lance un SOS sur les réseaux sociaux. La police attend-elle que je meure, s'indigne la jeune femme. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Elle diffuse la photo, l'identité de son agresseur, publication largement partagée. D'autres femmes témoignent à leur tour de la violence de cet homme, qui sera finalement interpellé dans la nuit de mardi à mercredi. Il est ce soir d'ailleurs toujours en garde à vue. Aujourd'hui, Claire aspire à retrouver la tranquillité, mais reste traumatisée par ces mois de souffrance. Et imagine que sans cet appel à l'aide, la violence de cet homme lui aurait peut-être coûté la vie.
Les sports, Adam Yates reste en jaune à l'issue de la 6e étape du Tour de France. À force de se regarder, les favoris se sont peut-être neutralisés. C'est le Kazakh Alexei Lutsenko qui en a profité. Victoire au sommet du Mont Aigoual pour le coureur de la formation Astana, Marguerite Lefebvre.
Oui, impressionnant numéro du coureur kazakh. On le sentait assez facile depuis ce midi au milieu de l'échappée du jour. Et bien dans le final, dans le redoutable col de la Luzette, il est parti tout seul sans se retourner et il s'offre donc à 27 ans sa toute première victoire sur un Tour de France. Derrière lui, on attendait du spectacle sur cette étape de montagne. En théorie, on se dit que toutes les occasions sont bonnes pour attaquer et gagner du temps au classement général. Et bien finalement, les favoris sont restés très très sages aujourd'hui. Pas d'attaque dans le groupe des leaders à part cette tentative de Julien Alaphilippe. Dans les tout derniers mètres de l'étape, le Français a réussi à récupérer une petite seconde, c'est tout, sur ses principaux adversaires et notamment le maillot jaune, Adam Yates, toujours leader. Adam Yates qui portera demain pour la deuxième journée son maillot de leader sur une étape beaucoup moins compliquée, étape de transition qui mènera les coureurs de Millau dans l'Aveyron jusqu'à Lavaur dans le Tarn.
Le football avec les premiers mots d'un revenant. Adrien Rabiot a été rappelé en équipe de France après 2 ans d'absence. De purgatoire, diront certains. Il avait refusé d'être suppléant lors de la Coupe du Monde 2018. Adrien Rabiot s'est livré cet après-midi à l'exercice très attendu de la conférence de presse. Jean-François Pérez, le milieu de terrain turinois, a donné son point de vue.
Oui, tout le monde se souvient de cette lettre qui avait choqué à quelques semaines de la Coupe du Monde, le refus d'Adrien Rabiot de jouer les doublures, l'affront à Didier Deschamps et au maillot bleu. En tout cas, c'est ainsi que l'opinion publique l'avait interprété. Le sélectionneur a donc mis 2 ans avant de rappeler l'ancien joueur du PSG qu'il avait quitté libre et en mauvais terme au terme d'un long bras de fer. Aujourd'hui épanoui en Italie, le milieu de terrain a désormais 25 ans, un peu plus de sagesse aussi. Ses premiers mots se veulent apaisants.
On a eu l'occasion de discuter. Je préfère garder ça... Voilà, entre nous, discussion entre sélectionneurs et joueurs, entre hommes, entre 4 yeux, c'est mieux comme ça. Jamais eu d'affront fait au sélectionneur ou d'agressivité envers le sélectionneur, et ça, il le sait bien. Donc, période trouble envers le sélectionneur, c'est pas ce que je dirais.
Mais Rabiot restera toujours Rabiot, pas d'excuses, pas de regrets, un joueur déterminé, ambitieux, un brin arrogant, quitte à froisser. « Je ne suis pas là pour être remplaçant », lâche-t-il un peu plus loin, persuadé que son talent et ses bonnes performances avec la Juventus sont ses meilleurs atouts. Le Duc, comme on le surnomme, est de retour, mais il sait aussi qu'il n'a plus de joker. Premiers éléments de réponse sur cette rédemption, samedi, en Suède, pour le premier match des Bleus depuis 10 mois.
Et notez que Steve Mandanda, le numéro 2 de l'équipe de France, est déclaré positif au Covid-19. Il est donc forfait avec les Bleus. Et puis on apprend dans le même temps que le PSG enregistre 3 nouveaux cas de Covid-19 sans en révéler les noms. Il y avait déjà 3 cas avec Di Maria, Paredes et Neymar. La météo dans quelques secondes.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Encore un temps nuageux au nord demain, Anissa Dadi.
Oui, effectivement, demain, Christophe, la journée commence avec encore, sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, jusqu'aux Ardennes, un ciel très couvert et quelques averses dans l'après-midi. Toujours sur le nord-ouest, nous aurons de nombreux nuages, avec sur les côtes de la Manche et la mer du Nord, un soleil qui fera quelques timides apparitions demain dans la journée. Quelques gouttes sont encore possibles. Et puis partout ailleurs, et surtout au sud de la Seine, et bien là, le soleil domine. C'est une vraie journée d'été, avec des températures en hausse, 9 à 15 degrés le matin, jusqu'à 20 degrés en bord de Méditerranée. Et au meilleur de la journée, c'est un pic de chaleur, sauf dans le nord-ouest évidemment, avec 21 degrés à Brest, 23 à Caen et Lille, 25 à Rennes, 29 pour Paris, 30 degrés à Nîmes et Chambéry, 31 pour Biarritz, 32 à Toulouse et Clermont-Ferrand, 33 degrés à Bordeaux et jusqu'à 35 degrés à Mont-de-Marsan.
Merci Anissa. La suite de votre 22h, 22h30 dans un instant. La bourse, Paris termine à la baisse et puis l'interview écho d'Emmanuel Duteil, Free est de retour, ça va mieux pour l'opérateur.
Europe 1, le 22-22-30.
Top à Wall Street avec Didier Hamot de Boursier.com, bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Wall Street corrige le tir après sa récente série de records, alors la bourse de Paris a elle aussi terminé en baisse.
Oui, il fallait que ça arrive. Hein. Coup d'arrêt à Wall Street où l'heure des profits a brutalement sonné après la série de records historiques enregistrés sur le Nasdaq et le Standard & Poor's en particulier. Le Dow Jones recule de 2,78% ce soir, 28 293 points. Le Nasdaq cède 4,96%, 5% de perdu pratiquement sur le Nasdaq. 11 458 points, ce sont logiquement les valeurs de technologie donc, qui avaient flambé et qui trinquent en premier, en particulier les deux valeurs qui étaient au plus haut. Tesla, moins 9%, 407 dollars. Apple, moins 8% ce soir, 120 dollars, 80 des prises de bénéfices très appuyées. Toutes les valeurs baissent hein, dans le secteur. Microsoft, moins 6%, Intel, moins 3,5%. Amazon, moins 5% avec Twitter. Facebook, moins 3,7%. IBM, moins 2,9%, les valeurs de technologie qui avaient regagné en moyenne 60% depuis leur point bas du mois de mars au déclenchement de la crise sanitaire. Donc c'est logique aussi de souffler. À Paris, donc, effectivement, vous en parliez, on a suivi le mouvement. La hausse en matinée n'a pas résisté à la correction de Wall Street. Le CAC 40 qui pointait au-dessus des 5100 points ce matin revient ce soir à 5009 points en baisse de 0,44%. Et aussi, on en parlait hier soir, Vallourec, qui a encore chuté de 11%, c'est la plus forte baisse du jour, à donc 16e séance d'affilée de baisse après sa dégradation par l'agence Standard & Poor's, qui a évoqué un défaut de paiement presque inévitable dans les 6 mois.
Avec une exception tout de même, c'est le titre Renault qui a clôturé en nette hausse.
Oui, c'est la satisfaction du jour, plus 3,2%, 23,40 euros, de quoi mettre fin à 6 séances de baisse consécutive. Renault donc en hausse, en nette hausse, plus de 3% de gagné. La nouvelle direction du groupe automobile a annoncé une nouvelle organisation stratégique autour de 4 marques en abandonnant le zonage géographique. Renault, Alpine, Dacia et une 4e marque destinée aux nouvelles mobilités sera créée avec un patron par marque. Ça a plutôt plu, donc ça a bien fait réagir la bourse en hausse ce soir, 3,2% pour Renault. Sur les autres places financières, la bourse de Francfort retombe d'1,4%, Bruxelles moins 0,9%, ça a baissé partout dans le sillage de Wall Street ce soir. Milan retombe d'1,4% et donc le CAC 40 en baisse de 0,44%, 5009 points à la clôture.
Et bien voilà, merci beaucoup Didier Hamot. 22h20 sur Europe 1, l'heure de l'interview écho. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le directeur général de Free, Thomas Reynaud.
Bonsoir Thomas Reynaud.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes à la tête de Free. Vous avez présenté ce matin du côté de l'opérateur téléphonique vos performances pour le premier semestre. Tout va bien, hausse du chiffre d'affaires de 7%. Vous avez séduit près de 100 000 nouveaux clients en plus depuis le début de l'année. Pour vous, c'était une période bénie, le confinement ?
C'est une période inédite, parce que d'un côté, qu'est-ce que l'on voit ? On voit une demande très forte des Français en termes de connectivité, et on a le sentiment de ne jamais avoir été autant ou aussi près de nos abonnés, au cœur de leurs préoccupations. On les a aidés pendant le confinement, on les a accompagnés pour continuer à travailler depuis leur domicile, pour permettre aux étudiants de continuer à s'instruire, pour permettre à nos 20 millions d'abonnés de continuer à communiquer entre eux. On voit, depuis la fin du confinement, une demande pour la fibre optique très importante. Et puis, en même temps, il y a ce contexte inédit, cette crise sanitaire, mais qui ne doit surtout pas tout emporter sur son passage et surtout pas l'optimisme et la confiance.
Juste un petit mot, justement, sur le tout début du confinement. On a cru que les réseaux n'allaient pas tenir. Vous avez eu peur, vous, quand on n'arrivait pas à s'appeler les uns les autres ?
Ce problème n'a jamais eu lieu chez Free. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu, du jour au lendemain, une hausse du volume de données transportées par nos réseaux de l'ordre de 30 à 40%. Et on a même constaté, sur les premières interventions du président de la République ou du Premier ministre, un doublement ou un triplement du volume d'appels, des records qu'on ne voit même pas un 31 décembre au soir. Mais nos réseaux ont tenu bon, nos collaborateurs tout au long du confinement, sont allés sur le terrain pour ajouter de la capacité et notre organisation a réussi à faire face, même si on a dû s'adapter en permanence et on doit continuer à s'adapter même sur cette rentrée.
Justement, est-ce que vous commencez, vous, à voir dans les données qui vous remontent les premiers effets d'un télétravail qui s'amplifierait ?
On n'a pas d'informations en ce sens-là depuis 2-3 semaines. On l'a clairement vu en termes de charge de trafic sur nos réseaux pendant le confinement. Ce que l'on constate et ce que l'on sait avec nos sous-traitants, avec tout le réseau d'entreprise avec lequel on travaille, c'est que depuis 2-3 semaines, on voit revenir le télétravail face à cette début de deuxième vague.
Mais est-ce que, par exemple, dans les chiffres que vous annoncez aujourd'hui, on voit une hausse extrêmement forte de la fibre, hein, très clairement Free est l'un des opérateurs qui est le plus en pointe en matière de fibre. Est-ce que ça s'explique aussi parce que des gens sont en train de s'équiper en se disant « moi, si je travaille demain à la maison, j'ai besoin d'avoir un réseau plus rapide ».
Il y a clairement un avant et un après le confinement. Le jour où le confinement s'est terminé, on a eu un nombre d'appels auprès de nos centres de contact qui a explosé pour des demandes de fibre optique. On pensait que le mois de juillet, le mois d'août allait être un peu plus calme, mais en fait, la tendance s'est accélérée. Et là, depuis 2 semaines, la demande ne cesse d'augmenter. Et c'est clairement un des effets secondaires du confinement. On voit que le souci de connectivité est de plus en plus important. Je pense qu'on l'a tous vécu pendant le confinement. Et clairement, la fibre optique, ça fait la différence.
Alors après avoir connu quand même un trou d'air, environ d'un an et demi chez Free, on voit que vous réussissez à nouveau à séduire des nouveaux clients. C'est vrai pour la téléphonie mobile, c'est vrai pour la fibre et c'est vrai également pour le fixe. J'imagine que vous avez été assez content quand vos équipes vous ont remonté le chiffre. Ça y est, vous avez retrouvé le niveau historique de clients de fin 2017. Free est véritablement de retour.
Free de retour. Au cours des 2 dernières années, on a renoué vraiment avec les fondamentaux qui ont fait le succès de Free. C'est l'innovation, c'est la simplicité. On a lancé une nouvelle Freebox au tout début de l'été, la Freebox Pop. Et c'est cet état d'esprit qui nous anime. Donc de l'innovation avec nos Freebox et de la fibre optique.
L'un de vos gros défis à venir, ça va être la 5G. Et ce matin, vous avez annoncé à l'occasion de la présentation de vos performances pour ce premier semestre que ça se fera sans Huawei parce que vous n'avez pas le droit d'utiliser l'opérateur chinois. Pourquoi donc ?
Non, nous n'avons pas été autorisés à déployer des équipements Huawei à la différence de 2 de nos concurrents, SFR et Bouygues. On regrette l'absence d'égalité de traitement entre les 4 opérateurs, qui plus est dans un secteur qui est hyper concurrentiel et vos auditeurs le savent. Maintenant, ce qui est essentiel, c'est de se concentrer sur ce lancement concernant la 5G. C'est un rendez-vous important pour Free, c'est un rendez-vous important pour le secteur des télécoms et puis même c'est un rendez-vous important pour l'économie française en termes de compétitivité, en termes de souveraineté.
Le plan de relance a été présenté à la mi-journée par le Premier ministre Jean Castex. Il y a un développement, alors pas extrêmement fort, mais quand même de numérisation de l'économie. Et il y a beaucoup de mesures pour l'embauche des jeunes, notamment sur l'embauche des jeunes. Est-ce que Free va les reprendre avec un tel plan ?
Oui, et même on l'a anticipé, on a annoncé en début de semaine que nous allions ouvrir 200 nouveaux postes d'alternants et de contrats professionnels d'ici à la fin de l'année. Ça vient s'ajouter aux 1000 embauches qui ont été réalisées sur les 6 premiers mois de l'année sur deux types d'activités, le déploiement de la fibre, et on est en train d'étendre notre réseau de boutiques à travers toute la France. Et sur ces 1000 embauches, on a fait environ un tiers de moins de 24 ans. Donc à notre niveau, on essaye d'accompagner le plan de relance par notre politique d'emploi et aussi par notre politique d'investissement, en revoyant à la hausse justement ces objectifs de déploiement de la fibre optique. Moi, je suis persuadé que les télécoms doivent être au cœur de ce plan de relance, parce que ce plan de relance...
C'est pas véritablement le cas quand on regarde les mesures, là.
À nous de faire notre travail de conviction pour essayer, notamment aussi vis-à-vis des PME et des TPE, d'aider les PME et TPE à se digitaliser un peu plus. Hein. Mais en tout cas, ce plan de relance, c'est une bonne chose pour la France, parce que, comme je le disais, cette épidémie, elle ne doit pas tout emporter sur son passage, et surtout pas la confiance, surtout pas l'optimisme. Et je pense que la première vertu de ce plan de relance, c'est de remettre de la confiance dans notre économie, mais aussi de préparer l'avenir.
Eh bien, merci pour tous ces détails. C'était Thomas Reynaud qui était en ligne avec nous, le patron de Free. On se retrouve demain, 22h20, sur Europe 1.
L'interview écho d'Emmanuel Luteil que l'on retrouve demain, bien sûr, et dans un instant, c'est déjà demain sur Europe 1, la une de vos quotidiens de ce vendredi. À la une de vos quotidiens, demain, le plan de relance du gouvernement, 100 milliards sur 2 ans, financé en grande partie grâce à l'endettement, ce qui ferait presque bondir nos confrères de l'opinion qui s'interroge dans l'éditorial d'Olivier Auguste. Relance et impôts, jusqu'ici tout va bien. La tentation bien française de faire payer aux générations futures les dépenses présentes. Attention de ne pas céder à la facilité, prévient notre confrère. Ce qui va changer pour l'économie française, prévient Les Échos, avec une interview de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Un plan de relance voué à l'échec pour l'humanité, avec la photo du Premier ministre à la une, un chèque en blanc, titre Luma, qui regrette que 35 milliards d'euros filent dans la poche des entreprises, sans la moindre contrepartie, explique notre confrère. Et la culture dans tout ça, s'inquiète Libération, photo de Roselyne Bachelot masquée et les mains jointes, comme si elle priait les dieux, à moins qu'elle ne réclame l'obol. 2 milliards pour la culture, l'obol d'air, titre Libé, c'est 2% du plan de relance, pas suffisant pour relancer un secteur culturel sinistré, explique le quotidien. Le Figaro, lui, s'intéresse à la politique anti-drogue du gouvernement face à l'ampleur des trafics. Le pouvoir passe à l'offensive et multiplie les opérations. Laïcité, sécurité, communautarisme, aujourd'hui le Parisien anticipe les futurs chantiers du président. Macron face au défi de la République, titre notre confrère qui rappelle que le chef de l'État va célébrer les 150 ans de la République demain au Panthéon. 20 minutes préfère titrer sur ses parents en première ligne. Ils sont nombreux à hésiter au moment d'inscrire leurs enfants dans un club de football, à la danse ou au théâtre. Le coronavirus est sans doute passé par là. Enfin, la Croix plonge dans le chantier libanais. Photo d'un homme masqué dans les gravats d'un Beyrouth ravagé par la double explosion qui a dévasté son port. Des Libanais qui tentent de se reconstruire sur fond de désespérance, nous dit la Croix. Et tout de suite, on va retrouver Olivier Delacroix pour la Libre Antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Christophe. Comment allez-vous ?
Eh bien écoutez, moi ça va très bien. Je mets fin à une session d'une demi-heure et je suis ravi, ainsi que les auditeurs d'Europe 1, de vous retrouver.
Eh bien écoutez, je vous retrouve tout à l'heure à 23h pour le flash de la rédaction. En attendant, eh bien soyez les bienvenus sur votre Libre Antenne qui démarre maintenant. À tout à l'heure Christophe.